If you call a woman African woman, what she gon' say?
She gon' say
she equal to man.
She gon' say
she can power like man.
She gon' say
she equal to man.
She gon' say
she get power like man.
She get power like man. She get power like man. She get power like man. She get power like man. She get power like man. She gets power, 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 she gets power.
Ouverture officielle de la saison 2019-2020, le tandem Arras-Douai a invité une troupe déambulatoire qui est partie en fanfare de la grande place d'Arras jusqu'au théâtre. Cette troupe est presque exclusivement constituée de femmes noires qui dansent, chantent et s'accompagnent mutuellement en musique. Ce projet performance s'intitule 30 nuances de noir et s'inscrit dans une démarche qui se revendique de l'afroféminisme. Entretien avec Sandra Sainte-Rose-Fanchine, chorégraphe et à l'origine de ce projet. On évoque avec elle entre autres son militantisme et bien évidemment la naissance de cette création. Cette interview a été réalisée pendant leur dernière répétition et sera agrémentée de quelques extraits de la déambulation. Sandra Sainte-Rose-Fanchine, vous êtes invitée par le théâtre pour ouvrir officiellement donc la programmation de cette année 2019-2020 avec votre collectif ou compagnie plutôt, 30 nuances de noir. D'abord, comment vous avez été contactée par le théâtre d'Arras ?
Alors tout d'abord, je vais faire un petit rectificatif. Donc la compagnie s'appelle la compagnie Sandra Sainte-Rose et 30 nuances de noir est la troisième pièce. Voilà, mais c'est un projet qui a pris tellement de force que du coup, on pense que c'est un collectif, mais en fait, c'est une pièce que j'ai écrite et j'ai invité donc des collaborateurs qui ont amené leurs compétences à partir des directives que je leur ai données. Moi, j'assure la direction artistique et la chorégraphie. Et sur 30 nuances de noir, on est deux entités, une entité musique, une entité danse. L'entité musique est pilotée par une arrangeuse qui s'appelle Adélaïde Songeon, c'est une directrice musicale qui s'appelle Célia Wa, qui sont toutes les deux musiciennes professionnelles. Et la partie chorégraphie qui est pilotée par moi, moi, je gère et l'ensemble et la partie chorégraphique. Voilà, donc on a été contacté par le directeur du tandem, monsieur Langlois, tout à fait par hasard, parce qu'en fait, quand on a fait nos premières dates à la Villette en novembre 2017, on a été sollicité par pas mal de médias comme vous, qui étaient interpellés par ce projet, dont un média féministe qui s'appelle La Poudre. Voilà, donc Monsieur Langlois a découvert le projet 30 nuances de noir par le biais d'un podcast féministe qui s'appelle La Poudre. Voilà, qui parlait des manifestations féministes dans l'espace public, et j'étais invitée pour parler de mon travail.
Ouais. Alors, vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet, de cette pièce, quand est-ce qu'elle est née, comment vous avez organisé tout ça, il y a des danseurs, des musiciens, etc., comment ça s'organise ?
La pièce, c'est un projet quand même qui a mis quand même énormément d'années à être accouché tel qu'on le voit aujourd'hui. En fait, ça fait 20 ans que je danse. Et avant de pouvoir payer mes factures avec la danse, j'ai dû, comme pas mal d'artistes, avoir un travail alimentaire à côté. Et pendant les années 2000, j'étais animatrice. Je travaillais dans l'animation socioculturelle pour le festival Ville des Musiques du Monde à Aubervilliers, où on accueillait beaucoup de fanfares. Donc j'étais, je commençais à danser, je n'étais pas encore professionnelle. L'idée de faire une parade en regroupant une formation de fanfare funk avec des danseurs hip-hop est née à ce moment-là, dans les années 2000, parce que dans le cadre de ce festival où j'étais animatrice, j'étais amenée à accueillir beaucoup de fanfare funk. Et moi, là, en tant que danseuse hip-hop, la gestuelle que je pratique est une gestuelle qui est affiliée à la funk. Donc du coup, le recoupement des deux esthétiques était vite vu. Voilà. Et puis je laissais ça dans un coin de ma tête, le temps de me professionnaliser. Puis une vingtaine d'années après, j'ai commencé à m'intéresser à des problématiques plus proches de mon vécu, notamment des problématiques afroféministes, où je commençais à politiser mon vécu de femme et mon vécu de noire. Voilà, je m'apercevais notamment et dans ma vie affective, mais aussi dans ma manière d'observer la société, puisque avant de choisir de devenir danseuse professionnelle, j'ai fait une école de design graphique, donc j'ai un œil qui est formé pour regarder les images, et je regardais beaucoup les images, les films, les publicités autour de moi, et je voyais que les femmes noires étaient souvent représentées de façon assez caricaturale, souvent redondante. Je ne voyais pas une diversité de femmes noires. Je voyais des images ou des rôles au cinéma qui étaient généralement assez réducteurs et qui, en tout cas, proposaient des personnages féminins qui n'étaient pas du tout valorisés ni valorisants dans la société patriarcale dans laquelle on vit. Du coup, je me suis posé la question à savoir si ces représentations des femmes noires n'étaient pas à l'origine de toutes les discriminations qu'elles subissaient, tout comme toutes les représentations qu'ont construit le racisme dans les pays européens ont été des outils de propagande pour construire la figure de l'altérité, entre guillemets. Donc je me suis posé la question, est-ce que la vie affective des femmes noires, est-ce que leur vie amoureuse, qui est souvent une vie dévaluée, où on refuse souvent la place de la femme noire comme une partenaire matrimoniale potentielle. Je me suis demandé si ce n'était pas du fait de ces représentations-là. Et du coup, j'ai eu envie de faire un projet où les représentations étaient changées et où elles montraient les femmes noires de façon impériale. Voilà comment ce projet est né.
Projet, donc, il évolue en extérieur, donc vous vous réappropriez évidemment le corps avec la danse, les espaces publics avec la déambulation extérieure. Il y a une démarche de visibilité également. Voilà, vous allez toucher des gens qui ne vous connaissent pas forcément, qui ne viennent pas voir un spectacle, ils vous découvrent en même temps. Est-ce qu'il y a une démarche politique également dans votre projet ?
Complètement, tout est réfléchi, c'est totalement volontaire de faire un spectacle dans l'espace public et d'aller à la rencontre d'un public qui ne va pas forcément fréquenter un théâtre. Pourquoi j'ai voulu faire ça ? Tout simplement parce que les représentations sont insidieuses et sont incorporées par tout le monde. Donc du coup, il fallait aller à la rencontre de tout le monde. Généralement, le public qui est amené à fréquenter un théâtre est un public déjà éduqué, qui a déjà une démarche. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un public qui n'a pas incorporé des représentations racistes. Mais moi, je voulais m'adresser à la France entière, au monde entier, parce que les représentations sur les Noirs en général, sur les femmes et sur les femmes noires en particulier, sont des représentations qui, à l'heure actuelle, sont tellement ancrées qu'elles sont inconscientes. Donc du coup, pour les déconstruire, il fallait s'affranchir des frontières d'éducation à l'art. Et il fallait, dans ce cas, absolument être dehors et s'adresser à tout le monde. Parce que dans la vie d'aujourd'hui, on peut rencontrer une personne sans domicile fixe qui aura des représentations racistes, alors qu'on sait que la société fonctionne aussi avec des logiques de classe et que généralement, souvent, c'est plutôt aux personnes qui ont le plus de pouvoir qu'on donne du respect. Et je me dis, si une personne qui est sans domicile fixe, qui est clochard dans la rue, elle arrive, parce qu'elle est blanche, à se sentir... plus importante qu'une personne noire qui peut avoir un statut social plus important qu'elle, c'est que l'ampleur du problème, l'ampleur de la logique de classe associée à la logique de race a vraiment contaminé toute la société et toutes les couches sociales. Donc du coup, il faut s'adresser à toutes les couches sociales. Et pour pouvoir faire ça, il fallait absolument être dans la rue. Donc oui, c'est un projet politique.
J'ai pas mal d'ateliers, moi, avec des collégiens, des lycéens et même parfois des écoles primaires. Et on étudie un petit peu l'environnement culturel un peu arageois. Donc on est tombé évidemment sur la présentation de la programmation. Et j'ai eu une question d'une élève qui m'a demandé, mais pourquoi il n'y a que des dames noires? Est-ce que si jamais moi, qui suis blanche, j'ai envie d'aller et de participer à cette fanfare et ce projet, est-ce que je peux?
Alors on nous a souvent posé la question, c'est que ce projet parle des représentations des femmes noires. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que des femmes noires. C'est pas du tout un projet qui parle des femmes en général, mais il parle spécifiquement des femmes noires qui sont soumises à des représentations racistes particulières du fait de leur corps, de leur couleur de peau, de leurs cheveux. Donc ça concerne évidemment pas les femmes blanches. Donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de femmes blanches dans cette proposition artistique.
D'où la revendication d'afroféminisme et pas de féminisme au sens général du terme.
Exactement, exactement.
Vous vous inspirez évidemment de musique de la Nouvelle-Orléans, des Caraïbes, mais du funk, de la soul aussi. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait aussi des marches militaires anglaises. Et ça m'interpelle. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce choix ?
Non, il n'y a pas de marche militaire anglaise. En fait, c'est juste... je pense que le théâtre, quand il a fait ses recherches sur l'histoire des parades, en fait, les fanfares de la Nouvelle-Orléans, quand on fait des recherches sur les origines des fanfares de la Nouvelle-Orléans, il y a une créolité. C'est-à-dire que ce sont des marches militaires anglaises qui ont été réappropriées par les esclaves noirs de la Nouvelle-Orléans et qui ont mélangé leur culture de musique et de danse pour donner les marching bands. Donc les marching bands de la Nouvelle-Orléans ont dans leur construction artistique des marches militaires anglaises parce qu'à l'époque de l'esclavage, comme on le sait, il y avait d'un côté les esclaves qui avaient leur danse, leur musique, etc., qui n'étaient pas autorisés à jouer en public, et il y avait de l'autre côté les maîtres de plantation qui sont arrivés aussi avec leurs pratiques artistiques, en l'occurrence les marches militaires. Et en fait, comme dans tout système de domination, souvent l'opprimé, vu qu'il n'a pas le droit de s'exprimer avec son langage propre, souvent il utilise les outils de la personne qui le domine et il y met sa culture. Voilà, mais on ne s'inspire pas des marches militaires anglaises.
Vous vous inspirez également d'une technique qui s'appelle le looking, qui vient de Los Angeles, dans les années 60-70, mais aussi du walking, qui est un peu différent. Pouvez-vous nous parler un peu de ces deux techniques et comment vous les êtes appropriées ?
En fait, je suis une lookeuse, je suis une danseuse de locking. Quand je suis arrivée à la danse hip-hop, c'est la première technique qui m'a parlé et c'est celle que j'ai le plus développée. Il se trouve que c'est une gestuelle qui a émergé dans les années, fin des années 60, début des années 70 aux États-Unis. Et qui était une gestuelle qui était essentiellement dansée par les personnes noires dans les clubs, mais aussi dans l'émission Soul Train, qui était la première émission télévisuelle produite par un noir dans le but de montrer les corps noirs de manière positive à une époque où quand on était noir, on pouvait se faire chasser dans la rue et se faire pendre. Donc c'est une gestuelle de réappropriation qui certes a une esthétique un peu drôle, un peu il y a du burlesque, il y a du comique, mais il y a aussi beaucoup de mouvements de bassin qui du coup rappellent beaucoup l'ancrage des danses afro. Donc vu que je suis moi-même loqueuse, ça tombait bien parce que le locking est une danse qui a émergé sur la musique funk. Voilà, donc c'était logique de passer par cette gestuelle. Quant au walking, c'est une gestuelle qui a été développée par la communauté gay, afro-américaine et latino. Donc c'est également une gestuelle de réappropriation. J'ai choisi ces deux gestuelles-là parce que ce sont des esthétiques de résilience. Voilà. Et les deux gestuelles font énormément appel aux vêtements aussi dans la pratique. Quand on regarde l'émission Soul Train, quand on regarde les danseurs de walking, il y a une fierté, il y a une tenue de corps qui montre la résilience, la réappropriation de son identité de manière affirmée pour se donner à voir autrement que la manière dont on est vu généralement par la société dominante. Donc ce sont des gestuelles où on ne courbe pas les chines. Ce sont des gestuelles où on se redresse et où on se montre habillé de manière flamboyante, élégante. Voilà, c'est des gestuelles qui viennent des années 70 et 80. C'est également ma culture. Donc, en fait, j'ai vraiment creusé et tiré absolument tous les fils de la culture funk, et dans la musique, et dans le vêtement, et dans la danse. Pour pouvoir construire cette pièce.
Dans les démarches de ce projet, évidemment, vous interrogez, je dirais même entre guillemets, vous interpellez aussi les rapports entre la masculinité et la féminité. Et quel est le retour justement que vous avez masculin? Est-ce que des hommes viennent vous voir? Est-ce qu'ils ne comprennent pas ou ils se demandent ou ils approuvent totalement?
Ça dépend lesquels. Généralement, on a beaucoup de retours d'hommes noirs. Enfin, s'il faut parler que d'eux, parce qu'on a des retours de plein de gens, on a des retours de toutes les femmes, qu'elles soient noires ou qu'elles soient blanches ou asiatiques, on a des retours de toutes les femmes. C'est un projet qui donne beaucoup de force aux femmes. Donc la question de se donner à voir et de se réapproprier son image de manière ostentatoire dans le public, je pense que ça concerne toutes les femmes, elles sont très interpellées par ça. Pour ce qui est des hommes, c'est plutôt les hommes noirs qui viennent me voir pour me dire que c'est un projet qui les rend fiers, qui leur donne également de la force, parce que ben, comme on utilise notre matériau, la funk, nos danses à nous, ben, forcément les gens peuvent vraiment se saisir de ce projet-là et se construire avec. Et c'est très encourageant pour nous. On a également deux hommes dans la parade. Aujourd'hui, ils vont être trois. Mais il y a deux hommes qui suivent le projet depuis le début et qui nous accompagnent parce qu'ils ils soutiennent les problématiques des femmes noires. Et ce qui est intéressant dans le rapport aussi à la masculinité, c'est que bien que ces hommes soient minoritaires, souvent, quand par exemple on est dans des locaux comme ici ou ailleurs, et qu'il y a des gens qui veulent nous parler, ils s'adressent avant tout aux hommes. D'accord. Alors que c'est un projet porté par des femmes. Donc il y a beaucoup de chemin à faire dans le rapport entre masculin et féminin, le rapport à l'autorité naturelle, il est beaucoup à questionner. Parce que dans une société patriarcale, ça va pas, apparemment, ça ne va pas encore de soi, que ce soit des femmes qui décident de leur propre vie, de comment elles se donnent à voir et comment est-ce qu'elles choisissent d'être.
Est-ce que ce projet, il va encore évoluer chorégraphiquement, musicalement, ou est-ce qu'il est déjà bien stabilisé et qu'il bougera plus? C'est la même chose à chaque fois ou vous changez des choses?
Pour l'instant, ça fait pas très longtemps qu'on existe, ça fait 2 ans et c'est très jeune pour un projet qui regroupe 22 personnes. Donc le projet est assez stable, mais on nettoie encore des choses, on améliore encore des choses. Après, moi, quand j'ai écrit ce projet, je le voyais sur le long terme, parce que tant qu'il y aura du racisme tant qu'il y aura encore une récurrence des clichés sur les personnes noires. Et je pense que les médias sont là pour nous le prouver, les questions de société sont là pour nous le montrer. Il y a encore beaucoup de racisme et d'idées qui sont héritières de la colonisation et de l'esclavage sur les personnes noires. Donc moi, je voyais ce projet au moins sur 10 ans. Donc pour l'instant, je me dis qu'on est sur un premier répertoire qu'on affine et peut-être que dans quelques années, on fera un deuxième répertoire. Voilà.
Et enfin, dernière question, un petit peu plus générale cette fois-ci, mais qui évidemment fait référence à la condition de la femme dans notre société actuelle. Quel est votre regard sur ces mouvements qui sont nés, des femmes enfin qui prennent la parole, je pense aux événements MeToo, les Femmes, etc. Comment vous voyez ça, vous, en tant que femme ?
Bon. Ça me met un peu mal à l'aise de porter des critiques sur d'autres mouvements féministes. Moi, je suis pas super... je pense que c'est bien que les féminines existent. Il y en a quelques-unes avec qui je suis en contact sur Facebook. Je trouve que c'est bien le travail qu'elles font parce que ça alerte sur ce qui se passe dans la société quand on est une femme. Quand on voit qu'on est début septembre, on est à la 102e femme qui est assassinée par son conjoint ou ex-conjoint, il y a un vrai problème dans le rapport que les hommes ont aux femmes et que les institutions ont aux femmes, parce que beaucoup de femmes sont tuées, pas parce qu'elles ne se sont pas défendues, mais parce qu'on ne les encadre pas, on ne les protège pas, et que du coup, cette condition est comprise par toutes, par tous et toutes, et en particulier par les hommes, qui du coup se sentent libres et se savent potentiellement impunis s'ils tuent leurs femmes. Donc le combat des féminines, pour ça, c'est bien. Après, je pense que c'est quand même un combat de féministes blanches, parce que ça reste des femmes qui utilisent le corps dénudé pour pouvoir militer, avec des corps qui sont quand même assez normés, qui sont minces, avec une poitrine... assez normal. Donc c'est une vision du féminin qui est pas très réaliste, mais c'est quand même bien qu'elles existent, parce qu'elles alertent sur des choses. Voilà. Ensuite, pour le mouvement MeToo, évidemment c'est plus que nécessaire, ça aurait dû arriver plus tôt, mais c'est même pas suffisant, parce que quand on voit des hommes comme Roman Polanski ou comme Luc Besson qui sont invités pour présider au Festival de Cannes, qui arrivent à faire tourner leur film, alors qu'on voit que par exemple une femme, dans l'instant où elle utilise par exemple la promotion canapé pour s'en sortir, elle est tout de suite vilipendée et punie par la société. Elle peut très vite se retrouver handicapée et ne pas pouvoir sortir de sa condition sociale. Alors que des hommes qui violent, qui assassinent, restent en liberté, c'est grave. Donc moi, j'accompagne ces mouvements-là. J'ai moi-même fait un post MeToo aussi, parce que toutes les femmes sont concernées par l'inceste, par les agressions sexuelles, par la silenciation, etc. Les combats sont différents en fonction de quel endroit on se situe dans la société, comment l'intersectionnalité révèle notre statut. Quand on est une femme blanche, valide, mince, qui vient d'une famille bourgeoise ou middle class, on ne se construit pas pareil, on n'a pas les mêmes outils pour arriver dans la société, donc forcément on a des problèmes en tant que femme, mais on n'a pas les mêmes qu'une femme blanche aussi, mais qui vient de classe sociale ouvrière, tout comme on n'a pas une femme de classe blanche, de classe sociale ouvrière, n'aura pas les mêmes problèmes qu'une femme noire middle class, et une femme noire middle class n'aura pas les mêmes problèmes qu'une femme lesbienne, noire, non valide, etc. Donc il faudrait arriver à une vulgarisation des outils sociologiques tels que l'intersectionnalité, pour que toutes les institutions, toutes les associations, tous les chercheurs qui travaillent sur ces problématiques-là et tous les groupes militants sachent que, en fait, un combat, ça ne se mène pas que sur un seul front. Voilà.
Entretien avec Sandra Sainte-Rose Fanchine, chorégraphe et à l'origine de la création 30 nuances de noir, qui était invitée avec sa troupe pour ouvrir la saison 2019-2020 du tandem Arras-Douai. Vous avez pu également entendre quelques pastilles sonores enregistrées lors de leur déambulation dans les rues d'Arras.